Aujourd'hui, nous entrons dans le carême où nous voulons jusqu'à Pâques étudier ensemble la dernière semaine de la vie de Jésus à l'aide de petits volets faits par ITEA. Alors certains le savent déjà, ceux qui sont dans les groupes de maison, vous avez certainement eu une certaine introduction du sujet. ITEA, c'est quoi ? Institut de théologie évangélique appliquée. Voilà. Donc c'est tout un comité, plusieurs personnes qui travaillent pour nous permettre d'avoir de petits volets pour étudier la parole. Je cite l'introduction. Nous pouvons dire sans hésitation que c'est la semaine la plus importante de l'histoire du monde. Pendant ces 8 jours, Jésus se révèle comme le vrai roi d'Israël. Il annonce la destruction du temple et les événements de la fin du monde. Il instaure une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Il est abandonné par tous ses proches et crucifié. Et enfin, il ressuscite et triomphe. Ces événements sont à eux seuls remarquables, mais leurs significations sont d'autant plus importantes. Jésus triomphe de la mort et du péché pour offrir au monde entier vie éternelle et pardon. Il inaugure une nouvelle époque où l'humanité n'a plus besoin d'être séparée de Dieu. Par le sang de Jésus, chaque personne a un accès direct au trône de Dieu pour y trouver grâce, pardon, amour et vérité. Ces chapitres ont la capacité de changer notre vie. Lisons-les avec un cœur ouvert, en priant que Dieu se révèle à nous. Je vous invite à lire maintenant dans le livre de Dieu, qui est la parole de Dieu, la Bible, Matthieu chapitre 21, versets 12 à 17. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 17. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 17. Je lis. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands, ainsi que les clients, leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David !» ils se mirent en colère et ils dirent « Tu entends ce qu'ils crient ?» Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous n'avez donc jamais lu cette parole ? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. Puis, il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Béthanie où il passa la nuit. Alors, pourquoi ? Quand on voit ce texte, pourquoi Jésus entre dans la cour du temple et chasse tous les marchands ainsi que leurs clients ? Pourquoi ? Il va même jusqu'à renverser les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. On a toujours à l'image que Jésus est un homme tout gentil. Il ne ferait jamais une chose pareille. C'est pas possible. Et pourtant, voilà ce qu'il fait. Jésus n'a pas du tout d'un coup révélé une partie de son caractère qu'il n'avait jamais montré. Au contraire, c'est un homme qui a toujours été vrai. Dans son ministère, il osait dénoncer l'hypocrisie des docteurs de la loi. Il osait affirmer des choses qui n'attiraient sur lui que le mépris des responsables religieux. Il savait dire ce que les personnes n'osaient dire non pour froisser, mais simplement pour dire la vérité. Exemplaire, oui, mais nous ne pouvons pas faire exactement comme Jésus a fait. Car Jésus n'est pas un homme comme les autres. Il est Dieu fait homme. Il avait donc le droit d'oser reprendre même sévèrement des personnes haut placées du peuple juif. Ça serait mal faire de vouloir imiter totalement le ministère de Jésus. Par exemple, il est le seul qui a comme ministère de sauver l'humanité en mourant sur une croix. Qui de nous peut oser ou peut dire qu'il a ce ministère? Personne. Dans notre lecture ici, rappelons-nous que nous sommes face à Jésus fait homme. Dieu fait homme, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a-t-il chassé les voleurs, les vendeurs du temple? À première vue, il n'y a pas de problème. Le motif extérieur du marché était sans doute ce que la loi exigeait, puisqu'il fallait des sacrifices d'animaux. Et c'est clair que les nombreux fidèles qui ont parcouru un long voyage pour venir jusqu'ici n'auraient pas pu apporter leur sacrifice avec eux. Donc on pourrait dire que le fait que les animaux étaient disponibles à l'achat était la chose à faire, chose pratique. Normal, quoi. Ici, nous avons en fait des marchands et des changeurs de monnaie dans la cour des non-juifs. Nous sommes dans la période de l'année pour les marchands, la meilleure période de l'année pour les marchands. Ils sont vraiment heureux car des foules immenses viennent dans le pays et même de très loin pour observer cette fête et commémorer la délivrance que Dieu avait opérée en Égypte. Meilleur moment pour les vendeurs de se remplir les poches. Hein? Mais ils allaient beaucoup plus loin que cela. Ils vendaient à un prix élevé les animaux destinés à faire des sacrifices. Ils profitaient des pèlerins qui venaient de loin. Les changeurs de monnaie, eux aussi, profitaient par un taux de change excessif, abusif. Est-ce que vous arrivez maintenant à comprendre ce qui se passe ici? Le lieu où les gens venaient pour adorer Dieu était devenu un lieu de commerce et aussi de vol, de mensonges et de tricheries, laissant ceux qui sont sincères pour adorer Dieu dans une grande frustration. Mais devant un tel spectacle où le commerce a pris une place importante, voire plus importante que la prière, où sont les responsables? Où sont les prêtres? Pourquoi ne disent-ils rien? Jésus se sent beaucoup plus concerné qu'il est lui-même, parce qu'il est lui-même Dieu. Et quelle honte! Devant un tel désordre, Dieu lui-même est présent. Il est là. Jésus n'hésite pas un seul instant. Il chasse ceux qui vendent et ceux qui achètent. Il renverse les tables et les chaises des marchands et il dit « Il est écrit ». On appellera ma maison une maison de prière.